À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonjour Laurent, bonjour Serge, bonjour mesdames, que nous présenterons tout petit peu plus tard.
Bonjour.
Voilà, on commence par l'actualité.
Allez, vas-y.
Allez, alors vous en avez peut-être entendu parler, mais on a très peu finalement, on a peut-être lu des choses dans certains journaux français, mais il y a un désastre dans le sud de l'Italie, des oliviers qui sèchent. Dans les Pouilles, exactement, dans le Salento. Et l'Union européenne envisage de demander à l'Italie d'arracher ses oliviers, mais les agriculteurs italiens avaient déjà commencé à en éliminer plusieurs. En fait, il y a une bactérie qui s'appelle la Xylella fastidiosa qui s'est installée. Alors, elle attaque d'abord les feuilles de l'olivier, puis elle descend de branches et elle va dans le tronc. Et elle détruit complètement l'olivier au point de le sécher. Mais des oliviers, alors les Pouilles, c'est une région qui vit beaucoup autour de l'olivier, puisqu'il y en a des centaines de milliers. Et c'est une des, d'ailleurs, en territoire, c'est la plus grosse production d'oliviers, enfin, disons, propriété d'oliviers d'Europe, en territoire, quand on compare à la surface, évidemment, cultivée. Et il y a des oliviers millénaires, donc, qui sont complètement asséchés par cette bactérie, dont on dit qu'elle viendrait du Costa Rica. Et il semblerait qu'il y avait eu une bactérie du même type sur le continent américain, mais il y a plus d'un siècle. Et on ne trouve pas la parade. Il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur le problème, mais visiblement, on ne trouve pas la parade à cette bactérie. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les agriculteurs du coin à leur grand désespoir? Mais pour ne pas contaminer une surface supplémentaire, parce que la bactérie, il semblerait qu'elle agisse sur un... Chaque fois, elle pique. Elle agit sur un rayon d'une centaine de mètres. Donc, ils ont fait une sorte de barrière phytosanitaire pour isoler la partie des oliviers malades avec la supposée non-contamination des autres par cette barrière sanitaire. Mais c'est peut-être pas gagné au point que tout le bassin méditerranéen s'inquiète. En France, la partie Corse notamment s'inquiète. En Italie, bien sûr. En Grèce, en Espagne, tout le monde essaye de collaborer pour étudier cette bactérie, voir ce qui se passe. Mais on n'a pas trouvé la parade. On connaissait la maladie de la mouche. Hein, c'est très connu sur l'olivier, mais qui détruit l'olive. Mais elle détruit l'olive, ce qui est déjà pas mal. Mais elle ne détruit pas l'arbre. Alors que cette bactérie,
c'est un peu plus grave.
C'est nettement plus grave, oui, surtout quand on en vit, et c'est le cas de cette région des Pouilles, qui n'est pas une région richissime, mais qui vit beaucoup autour de ses oliviers. Alors, cette bactérie n'attaque pas que l'olivier, elle attaque aussi les lauriers et certains agrumes aussi, donc ce qui est plutôt inquiétant. Donc il y a déjà 10 000 hectares qui ont été contaminés, donc condamnés, 10 000 hectares d'oliviers dans le Salento. Donc voilà, alors certains sont un peu moins alarmistes, notamment il y a un scientifique italien, Giovanni Martelli, qui dit oui, mais bon, il n'est pas dit qu'il y aura une propagation supérieure à ce qu'elle n'est déjà, elle est déjà importante. Voilà, enfin, les avis sont un petit peu partagés, mais l'inquiétude, par contre, elle est bien réelle. Voilà donc pour cette...
Les chimistes ne se sont jamais penchés sur
ça. Si, mais ils n'arrivent pas à trouver de parade à cette bactérie. Alors pour le moment, à part la barrière phytosanitaire dont on ne sait pas si elle aura une action assez suffisante pour empêcher la contamination, ils n'ont rien trouvé d'autre pour l'instant. L'autre sujet, c'est l'Expo de Milan, l'Expo universelle de Milan. Et donc je rappelle que c'est 180 jours d'exposition du 1er mai au 31 octobre 2015, donc bientôt. 130 pays présents. On attend on attend 20 millions de visiteurs sur un site qui a 1 million de mètres carrés. Donc c'est assez grandiose. On dit qu'au niveau architectural, c'est assez impressionnant. Et le thème de cette année, c'est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Donc il y aura une sorte de voyage à travers les saveurs, les thèmes de l'alimentation. Alors comment produire, bien produire, par qui, quel type de production, et faire aussi un état des lieux sur les continents qui vivent peut-être moins bien que d'autres au niveau de l'alimentation. Et alors ce que je voulais rajouter là-dessus, et puis on va parler d'un sujet qui fait polémique en Italie autour de l'Expo de Milan, c'est que pendant les deux premiers mois, le pavillon français, puisque la France sera bien sûr représentée, sera sous la présidence Rhône-Alpes. Donc c'est Rhône-Alpes qui gérera le pavillon français. Et d'ailleurs, il y a un lycée de l'île d'Abeau, une classe d'un lycée de l'île d'Abeau, une classe italienne, qui va aller animer, enfin, faire partie de l'animation d'une journée sur ce pavillon français, ce qui est plutôt sympa comme projet. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler sur Couleur FM.
97.1.
C'est bien. Voilà. Alors, ce qui fait débat, je disais, c'est que parmi les participants, il y aura un grand de la, je ne sais plus si on peut dire, de l'alimentation américaine, le roi du fast-food, qui sera présent, donc McDo, hein, puisqu'il faut le citer, même si on ne doit pas faire de pub sur Couleur FM. 36 000, pour resituer, hein, c'est 36 000 restaurants, 120 pays dans le monde.
Restaurant, le terme est un peu abusif.
36 000 lieux d'alimentation dans 120 pays du monde, 70 millions de repas par jour, quand même. Et alors, il semblerait qu'ils aient séduit Giuseppe Sala, qui est l'administrateur délégué de l'Expo, par un projet. Mais je pense que ce projet était bien calculé. Alors, il faut dire que McDo a eu beaucoup de mal à s'implanter en Italie. Beaucoup, beaucoup de mal, au contraire de la Grande-Bretagne et de la France. Mais maintenant, ça y est, implanté, et les ouvertures se succèdent. Alors, ils ont un projet qui est un objectif, disent-ils, c'est d'accompagner les jeunes agriculteurs dans le développement de leur exploitation, les jeunes agriculteurs italiens. Et ils leur ont lancé un concours qui a été approuvé par le ministère de l'Agriculture. Donc cette initiative, c'est faire participer des agriculteurs de moins de 40 ans à un projet en matière de développement durable et d'alimentation sur cet produit type, ou cette filière plutôt, la viande bovine, la viande volaille, le pain, la salade, les pommes de terre, les fruits et le lait, puisque c'est ce qu'on retrouve en général.
Et le sucre aussi.
C'est pas dans le projet. Et donc, les heureux élus fourniront régulièrement les établissements de ce géant américain en Italie. Voilà. Et alors, les réactions, évidemment, sont assez nombreuses. Puisque, alors, il faut dire que ce qui a séduit Giuseppe Sala, c'est ce projet Fattore Futuro, grosso modo le fermier de demain, et ça a séduit aussi le ministre Martina de l'Agriculture, qui a approuvé donc le projet en disant oui, ils vont créer des emplois, ils parlent de développement durable, or c'est notre objectif en tant que ministère de l'Agriculture, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas sur le site de l'Expo. Les réactions, là, sont nombreuses. Il y a les partisans, hein, de la présence de McDo. Puis il y a les adversaires. Et parmi les adversaires, il y a notamment Slow Food.
Et Petrini,
Carlo Petrini, qui est le fondateur de Slow Food. Tu nous parleras peut-être de sa réaction. En fait, Slow Food dit en résumé, que c'est une opposition de deux systèmes d'alimentation, le système de grande distribution et de consommation dite industrielle, et l'agriculture, celle qui est plutôt préconisée par Slow Food, qui est une agriculture de proximité, familiale, qui travaille avec les petits producteurs, notamment. Mais en fait, ils ont bien détourné quand même le problème en proposant ce concours.
Exactement, oui, c'est une... Au point de vue marketing, c'est une belle chose.
Voilà. Alors, peut-être que tu nous parles de la réaction de Carlo Petrini, peut-être même sûrement.
Alors, sûrement.
Tu as dû voir la vidéo.
Donc, il y a une vidéo sur Internet dont on pourrait peut-être mettre l'adresse sur le site.
On la mettra, oui, effectivement.
Donc, c'est un discours de Carlo Petrini, qui est le fondateur de Slow Food. Qui est Slow Food, je le dis en deux mots, c'est le contraire de fast food. Donc là, on a tout dit. Et c'est devant une assistance, j'imagine, de patrons, d'organisateurs de l'exposition.
Tous les décideurs de l'expo de Milan, en fait.
Donc, Carlo Petrini, son discours dure entre 10-13 minutes. Et c'est vraiment un résumé, mais très, très dense. Il commence par dire « Notre système alimentaire ne fonctionne pas. Il entraîne une souffrance ». Pour une grande partie de l'humanité, il parle de honte planétaire. Donc on peut imaginer devant les gens, ces décideurs et ces chefs d'entreprise de l'entreprise, de l'agriculture et de la distribution alimentaire moderne, on va dire, l'effet que ça peut faire. Donc il évoque 850 millions de mal nourris dans le monde, bien sûr des gens qui meurent de faim, et... en plus avec un désastre environnemental. Alors il dit pour notre Terra Madre, donc on peut dire deux mots de Terra Madre. Terra Madre, c'est une branche aussi de Slow Food qui intervient en Afrique et qui aide au développement local. C'est-à-dire que après il parle du maïs au Mexique, mais plutôt que de faire du maïs OGM en Afrique ou au Mexique, bah, autant prendre des variétés autochtones. Donc, c'est pour ça qu'il dit Terra Madre. Hein. Et alors, ensuite, il continue en disant « Il faut avoir le courage de toucher là où ça fait mal. » Alors, si j'ai bien compris, la traduction mot à mot, c'est « là où le nerf est découvert » en italien. Si on traduit mot à mot, et je trouve que c'est encore plus fort que l'expression « là où ça fait mal ». Et là où ça fait mal, et ben, tout simplement, c'est le libre marché qui, appliqué à la nourriture, est un non-sens. Alors, on pourrait dire que si on fait la même étude sur le logement, c'est un peu la même chose. Hein, mais enfin, Petrini, lui, est dans l'agriculture. Et donc, appuyer là où ça fait mal. Et ensuite, il insiste pour dire que le libre marché, l'économie libérale, génère donc une grande souffrance. Et il prend un exemple qu'il ne va pas chercher en Afrique, mais en Italie, où le lait est payé 27 centimes d'euros le litre. Les agriculteurs français en sont, je crois, à une trentaine. Mais enfin, c'est à peu près la même chose. Et de poursuivre en disant, bah, ici, en Lombardie, puisqu'il fait son discours à Milan, il y a aussi des éleveurs qui sont dans la souffrance, puisque entre 27 et 30 centimes, le litre de lait, ça ne couvre pas les frais. Alors ensuite, il passe rapidement en revue le mécanisme du sous-développement, c'est-à-dire qu'on prend les terres, ou si les autochtones ne veulent pas les donner, ben on les expulse avec l'armée ou avec en tuant les gens, tout simplement. Hein. On prend leurs terres et après, on les embauche, on ne les paye pas et ils sont en sous-nutrition. Bon, c'est un raccourci, mais enfin, c'est pas faux. Hein. Alors, il prend l'exemple du Mexique, qui rappelle Petrini est le pays d'origine du maïs, et où là, donc ces opérations d'expropriation ont eu lieu, du maïs OGM, bien sûr celui de Monsanto en voisin. Je rappelle que quand on est aux États-Unis, pour les entreprises, le Mexique, c'est pas l'international, hein, c'est compris dans les ventes intérieures. Donc ces agriculteurs sont salariés des grandes entreprises agricoles et n'ont plus assez pour manger. Et en gros, le Mexique voit 5% de sa population mal nourrie. Donc le cas du Mexique, Carlo Petrini nous dit que cet exemple peut venir en Europe, pourquoi pas. Alors là, une petite réflexion peut-être personnelle sur l'intensification de l'agriculture. Moi, je crois que entre les années 50 et 70-80, on va dire, il y avait peut-être besoin d'une agriculture intensive, puisqu'il fallait bien nourrir tous les gens qui arrivaient. Peut-être qu'à partir des années 80, on aurait pu arrêter. Manque de chance, c'est là qu'on a commencé la recherche sur les OGM. Ensuite, Petrini défend une production Made in Italy, et enfin surtout pour la nourriture. Hein. Alors, il appelle aussi à la fin à une exposition plus sobre dans les manifestations, dans les dépenses. Et il dit qu'il faut que cette exposition ne soit pas réservée aux touristes, mais aussi que des Italiens pauvres puissent y aller. Et en appelle entre... Alors là, c'est peut-être un vœu pieux, mais il en appelle à un dialogue entre les entreprises et puis les petits paysans. Voilà en gros son discours. Donc je crois que devant un tel parterre, c'est très très courageux.
Il a interpellé aussi le maire de Milan, qu'il appelle son ami d'ailleurs, sur la montée des prix dans les hôtels, évidemment. Alors, même si le maire de Milan n'a peut-être pas une action obligatoire sur les hôteliers. Voilà. Sur les OGM, par contre, le Slow Food n'est pas contre la participation des défenseurs des OGM à l'expo, dans le cadre des conférences ou des tables de ronde, on va dire, de discussion autour de ça, en disant ben, c'est peut-être le moment d'échanger et c'est argument contre argument. Hein, voilà. On va écouter une première chanson. Alors, c'est une de nos invitées qui va nous dire ce que le groupe a choisi. Et puis, on parlera après de la chanson et bien sûr de nos invités. Alors, qui de vous nous présente?
Ben, je veux bien.
Alors, je veux bien, la voix est de...
Françoise Brouet.
Françoise Brouet, vous connaîtrez après Françoise Brouet, mais elle va nous dire...
Brouet, accent aigu.
Oui, je l'ai mal prononcé,
c'est pas vrai. Grave, c'est pas grave, j'ai l'habitude.
Et qui va nous dire le choix du groupe
Ben, on a choisi une que tout le monde connaît, qui s'appelle Bella Ciao, qui est connue en France dans sa version de Chant des Partisans.
Tout à fait.
C'est une chanson dont les paroles avaient été changées. Au départ, c'était une chanson des femmes qui travaillaient dans les rizières.
Mondine.
Voilà. Et voilà.
Alors, on reviendra après sur la chanson, on va l'écouter.
La mattina, appena alzata, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni
stamattina mi sono alzato,
io ti invoco ogni doma,
partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti
Voilà, alors on a entendu les deux versions, en fait, celle des Rizières et celle des Partisans. Alors, petite précision, on a entendu Giovanna Daffini dans la chanson des Rizières, effectivement, des Mondines, et qui a été la première enregistrée, en fait, sur disque à l'époque. Et la première des Partisans enregistrée sur disque, elle a été par Yves Montand, donc beaucoup plus tard que Giovanna Daffini. C'est pour ça que souvent, on pense que celle des Partisans est une transformation de l'autre en changeant les paroles, ce qui se fait souvent, effectivement, dans les chansons. Mais non, c'est bien celle des Partisans qui a précédé celle des Rizières. Enfin, c'était juste une petite précision, mais les deux, mais l'ordre de qui a précédé, laquelle a précédé l'autre, c'est souvent un débat d'ailleurs en Italie là-dessus. Par contre, la Bella Ciao, les textes sont superbes tous les deux. Hein, et celle des Partisans, évidemment, est chantée quasi dans le monde entier maintenant. Voilà, alors on a donc commencer par Françoise Brouet, qui va se présenter elle-même et qui va nous présenter ses trois compagnes, et elle, la chorale, puisque vous faites partie d'une chorale qu'on a invitée. Et alors, si on vous a invité, d'ailleurs, c'est parce qu'on vous a vu et on a beaucoup apprécié.
Ah, merci.
Alors, Françoise. Donc, Françoise Brouet.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis la chef de ce chœur qui s'appelle Cantiamo. Mm-hmm. Et ils sont venus avec moi Catherine Gillot Gibault, Evelyne Broche et Marie-Annick Romieux-Girard, qui sont des choristes dans ce chœur qui a 3 ans, je ne me trompe pas.
Ah oui, 3 ans.
Voilà.
Donc, un chœur récent qui est né donc
à Villefontaine.
Mm-hmm. Et vous êtes toutes de Villefontaine ? J'ai dit toutes parce que c'est un chœur de femmes. Hein,
vous, oui, êtes combien, de femme. Vous êtes combien dedans?
Une petite vingtaine, 18, je crois.
Et vous êtes toutes de Villefontaine?
Exprès. On limite non. Exprès, on ne veut pas être un gros groupe. Moi, j'habite Villefontaine, oui.
On n'est pas toutes de Villefontaine, il y a des communes.
Il y en a d'autres qui viennent d'autres communes, oui. Il y en a même qui viennent de
d'assez loin.
D'assez loin, oui.
Ménérieux, Saint-Hilaire de Brins.
Genasse. Marise, elle vient de Genasse.
Donc, le lieu, c'est Villefontaine. Oui. Et le choix, alors, d'un cœur de femme.
Voilà, je vais laisser Evelyne expliquer.
Alors, le choix d'un cœur de femme, en fait, d'abord, ce cœur est né par la volonté, je dirais, de deux amies, Elisabeth et moi-même, qui chantions auparavant à la chorale de Linis.
Éphiméra.
À Éphiméra.
Dont Evelyne a eu l'idée, d'ailleurs.
Voilà, c'est moi qui étais à l'origine aussi de Éphiméra. Et donc, nous avons quitté toutes les deux Éphiméra pour diverses raisons. Et nous avions envie de continuer à chanter en italien ce répertoire italien qui nous tient tant à cœur. Et nous avons donc regroupé quelques personnes autour de nous. Et nous chantions déjà dans un autre chœur de femmes qui s'appelle Femmes de chœur, dirigé par Françoise. Et nous lui avons demandé si elle voulait diriger ce chœur-là aussi. Voilà, donc la création, c'est cette volonté-là. Et pourquoi une chorale italienne ? Pourquoi une chorale de femmes ? Parce que Femmes de chœur est aussi une chorale uniquement
d'accord.
De femmes.
Oui, parce qu'Éphiméra était mixte.
Éphiméra était mixte.
Et par contre, Femmes de cœur était un
chœur. Et Femmes de cœur est uniquement un cœur de femmes. Donc, mm-hmm. On souhaitait que Cantiamo garde cet esprit-là aussi. Mm-hmm. Et reste un cœur de femmes également. Voilà.
je vais ajouter que les hommes sont une denrée rare dans les chorales. Et quand on crée un nouveau cœur, on a toujours des scrupules à faire un cœur mixte parce qu'on se dit qu'on va prendre les hommes d'une autre chorale. Et on a beaucoup moins scrupules à créer un chœur de femmes, parce que d'abord, il y a beaucoup de femmes qui n'hésitent pas à chanter dans plusieurs chœurs. Mm-hmm. Et puis, il y en a beaucoup dans les chorales, donc on ne fait pas de tort. Voilà.
D'accord. Et vous êtes organisé comment ? Vous avez des répétitions régulières ?
Alors, on répète tous les 15 jours, mm-hmm. Une heure et demie tous les 15 jours.
D'accord.
Normalement, elles travaillent à la maison pour que quand on...
Elles ont des devoirs.
Voilà, elles ont des devoirs. Et pour que quand elles arrivent, on ne passe pas du temps à rabâcher les mêmes passages. Et puis voilà.
Alors leur devoir, il consiste en quoi? Réécouter
Moi, je fais des enregistrements de toutes les voix. Et puis, je les envoie avec mon petit ordinateur. Et puis, elles ont tout ça à la maison. Voilà.
D'accord. Et le choix du répertoire, c'est vous qui le faites?
Oui, c'est moi qui choisis, mais il y a des filles qui m'en proposent. Il y a plusieurs choristes qui sont d'origine italienne, de différentes régions dans le chœur, et qui me proposent des choses. Après, moi, en fonction de ce que j'aime, de la difficulté, des fois, c'est moi qui fais les arrangements et c'est pas vraiment mon fort, alors il faut que ce soit pas...
Et oui, c'est...
c'est, pas... enfin, c'est difficile pour moi de trouver des partitions. Déjà, des partitions pour cœur à voix égale, c'est-à-dire que des hommes ou que des femmes, il y en a beaucoup moins que des partitions pour cœur mixte. Et en plus, dans cette sélection moins nombreuse, on prend que en italien, ça fait encore beaucoup moins de...
Plusieurs facteurs qui s'additionnent, qui se multiplient.
Donc souvent des fois, j'ai arrangé moi-même ou me suis inspiré de choses qui étaient déjà faites à voix mixte, voilà.
Et vous parliez de chants en italien, évidemment, mais il y a aussi des chansons dans des dialectes de différentes régions.
Ouais.
Et dans le répertoire, ben, on en parlera, c'est votre répertoire, mais est-ce que ça vous pose plus de problèmes
pour les non-italianisants,
voire même pour les italianisants?
Alors, surtout pour les italianisants.
Oui, parce qu'il y a des réflexes.
Ouais, on a des grosses discussions, mais non, là c'est les, mais non, là c'est là,
exact.
Et tout ça. Voilà. Et moi, comme je n'ai jamais fait d'italien, je suis ouverte à tout, et après c'est moi qui décide.
Non, parce qu'effectivement, il y a des dialectes proches, il y en a d'autres qui sont plus éloignés.
Par exemple, celle qu'on écoutera après, je crois que ce n'est pas d'italien-italien, c'est plutôt du dialecte des Abruzzes.
Oui, et donc, différent.
Voilà, il y a des choses différentes.
Très bien. Et l'origine, Evelyne a expliqué le parcours des Fimera, qui est née d'ailleurs en Italie. Fimera
est née à Rovigo lors d'un voyage à Rovigo. On a visité un très beau théâtre.
Voilà.
Et Chantal
que pour le groupe
puisqu'il
était fermé
groupe,
à l'époque.
Oui. Et Chantal et moi avons voulu tester l'acoustique de ce théâtre, donc on est montées toutes les deux sur scène puisqu'on n'était que le groupe, et on a chanté Signore delle Cime
et
toutes les deux.
Et elles ont décidé de créer cette chorale qui devait être éphémère, qui ne l'a pas été pendant longtemps puisqu'elle s'est prolongée, puis qui maintenant est en sommeil, on va dire. Bien, bien. On va peut-être écouter la chanson dont vous parliez, puis on continuera. Alors, c'est toujours Françoise qui nous la présente.
Ben oui, c'est le chant des ramasseuses d'olives dans la plaine d'Orlona. Voilà.
Nebbia la valle, nebbia la
Voilà, vous entendez un petit peu un débat là, enfin un débat, une discussion autour des langues justement. Et Serge, peux donner une précision sur les langues, tu peux la donner, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure du
Je disais que pour comparer le français et l'italien, il faut regarder la carte du chemin de fer en France et en Italie. Donc en France, tout va faire Paris, donc c'est le français qui a tué toutes les langues régionales. Et en Italie, on n'a pas une carte comme ça. Il y a des villes qui sont des villes-mondes, quasiment, pour reprendre une expression connue. Et on a une carte de chemin de fer donc, qui s'éparpille un peu partout, ce qui veut dire que les langues locales, sans parler de mots de dialecte, mais les dialectes sont beaucoup plus vivants.
Alors il y a des langues régionales
une question de centralisation du pays.
Qui sont reconnues comme langues, entre guillemets, officielles aussi, même si la langue, c'est l'italien. Il y en a d'autres qui sont reconnues comme dialectes, mais dans chaque région, on parle encore assez régulièrement la langue régionale.
Et alors l'italien, c'est un patois qui a réussi, quoi. Non,
mais c'est ça. Alors, c'est évidemment la langue officielle dans les textes.
Et c'est celle qui est d'où, alors ?
Que tout le monde connaît. Hein.
Ben, on Florence, non ?
Oui, on dit que c'est celle qui ressemble le plus au florentin.
D'accord.
Puisqu'on s'est inspiré. Mais il y a les langues ont voyagé. Vous avez dans vos répertoires, je le sais, puis vous nous en parlerez peut-être, mais dans les choix, vous avez beaucoup de chants traditionnels ou de chants d'immigration. Mais même par l'immigration, les langues régionales ont été exportées. Vous avez par exemple au Brésil. Vous avez les Italiens qui ont immigré au Brésil, venaient de régions différentes qui n'avaient pas le même dialecte. L'italien n'était pas très officialisé encore. Et ils avaient pris comme support de langue pour communiquer entre eux le vénitien, en fait, parce que la majorité était quand même de Vénitie. Et teinté après de portugais, puisqu'ils étaient portugais brésilien. Il y a une langue qui a été créée qui s'appelle le talian. Et cette langue est devenue deuxième langue du Brésil, parce que beaucoup de radios émettent en talian. Et donc cette langue a été oralement exportée, on peut dire, mais par le chant souvent. Hein, par le chant, parce que c'est souvent par le chant qui s'exprime. Et après, elle est venue. Alors que c'est pas une langue administrative, mais c'est une langue qui est culturelle.
Orale,
alors justement, dans le choix de vos répertoires, donc, vous avez surtout des chants traditionnels.
Chants populaires, oui, on est parti là-dessus.
Parce que c'est ce qu'on avait compris quand on vous avait vu, donc des chants populaires.
On a fait un petit morceau de Mozart, comme ça, pour se faire plaisir, mais ouais, c'est essentiellement la chanson populaire.
Et donc, pour les arrangements, ça ne pose pas de problème particulier.
Bah, ça me demande du travail.
Et dans le choix est-ce que vous choisissez par thème, simplement par plaisir de ce que vous avez entendu?
Oui, ou... bah, par exemple, la première que j'avais décidé de faire, c'était Gorizia, parce que je l'avais entendue chanter par Ephimera, justement, et ça m'avait fait dresser les poils sur les bras. Je ne la connaissais pas.
Extrêmement belle
chanson. Voilà, donc ça a été la première. Après, je connaissais le groupe Évasion. Alors,
j'ai repris
des chants dans leur répertoire aussi. Voilà, après, ben, je cherche, je farfouille, et puis je prends essentiellement des choses qui me plaisent.
Et vous trouvez facilement des chansons? Alors, vous disiez que vous avez dans votre chorale, certaines vous amènent des autrement, en enregistrement, vous trouvez facilement des enregistrements?
Ben oui, puis, vous savez, Internet, c'est une belle chose.
Maintenant, oui, c'est plus facile.
On trouve plein de choses, hein, plein de choses.
Bien, bien. Et Evelyne, sans faire de comparaison, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais entre une chorale mixte et une chorale de femmes, les règles, je sais pas, de répétition ou autre, par rapport au placement des voix et autres, est-ce que c'est quelque chose de plus... Je sais pas, moi je suis complètement néophyte, alors je vais poser des questions peut-être stupides.
Il n'y a pas de questions stupides.
Mais est-ce que c'est plus facile techniquement d'avoir que des voix d'hommes ou que des voix de femmes, ou le côté mixte complique
Alors, personnellement, je pense que une chorale mixte est plus facile qu'un chœur de femmes.
Ouais, on pourrait penser le contraire au départ.
Femme, ça c'est mon opinion personnelle. Je pense que dans une chorale mixte, chacun sait comment placer sa voix. Dans un chœur de femmes, on est obligé un petit peu de répartir les voix différemment. L'arrangement que fait Françoise, y a une voix de soprano, une voix de mezzo, une voix d'alto. Pour moi, c'est différent et je trouve que le chœur de femme est plus harmonieux que le chœur mixte. C'est différent.
Je pense que ça tient au fait que quand on a des hommes et des femmes, les hommes chantent dans un registre plus bas que les femmes, une octave en général. Donc les différentes voix sont plus écartées. Donc c'est plus facile de se repérer que quand on fait un arrangement à voix égale. Forcément, comme on est dans le même registre, ben les voix sont plus serrées et donc c'est plus difficile de se situer. Par exemple, celles qui se situent au milieu, qu'on appelle les mezzos, eh ben elles sont vraiment, des fois elles se sentent un peu coincées entre les deux autres voix, celles de droite et celles de gauche, parce que c'est très proche et donc elles se sentent attirées d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est ça que tu ressens.
Ouais, peut-être.
Et par exemple, un chant de montagne, de chorale de montagne, sont souvent des chœurs d'hommes. Hein. Mm-hmm. Et est-ce que c'est adaptable
en
chant féminin?
Oui, complètement. On met une octave au-dessus. Enfin, on n'a rien à changer, c'est pareil. Et,
d'accord.
Pareil.
On apprend des choses, hein, Serge.
Et
c'est
les chœurs d'hommes.
Les hommes et les femmes ont le même registre de voix, la même tessiture. Sauf que certains hommes peuvent chanter plus haut, mais après, du coup, on adapte. On n'a même pas besoin d'adapter, quoi. On le prend tel quel et puis on met une octave au-dessus, puis d'accord. C'est bon.
Vous pouvez faire des chansons de gêne, genre, où il y a des chœurs
d'hommes. Oui, bien sûr. Mais quand moi j'étais allée dans le sud-ouest une année en vacances et il y avait des petits
le
groupes
Béarn.
qui faisaient de la polyphonie. Il y avait aussi des groupes de femmes, elles chantaient la même chose. Hein. Mm-hmm. Pas de souci. Ça donne pas. Ça, esthétiquement, c'est pas pareil, mais techniquement, c'est pareil.
Et est-ce que vous connaissez beaucoup de cœur de femmes chantant des chansons traditionnelles, enfin des chants traditionnels italiens?
Alors, j'ai été contactée par une chef de chœur qui est à Sainte-Foy-lès-Lyon.
Oui.
Et on n'arrive pas à se rappeler, c'est horrible.
Oui, on les connaît, voilà. On les avait fait venir à une assemblée
donc
générale.
On est en train de prendre contact.
Oui, ils sont très bien d'ailleurs. Oui.
Voilà.
Et alors je sais qu'il y a un chœur de... On a une deuxième émission sur Color FM qui s'appelle Sono Solo Canzonette, qui est le titre d'une chanson de Benato, l'auteur-compositeur italien, mais il y a une chorale de Paris, de femmes, qui s'appelle Sono Solo Canzonette, et qui a choisi... Par contre, dans la région, je ne sais pas, peut-être au niveau de Grenoble, non, vous parliez de Sainte-Foy, mais
non,
vous en connaissez.
Vous n'avez pas de contact avec des chorales italiennes?
Non, pas
Piémont.
Encore, pas encore, mais...
Non, mais on attend... quelques invitations, notamment de l'INIS sur un festival de Rovigo, par exemple.
Alors, j'ai personnellement vu le dernier festival de Rovigo, puisque je fais régulièrement, et on a même été co-organisateur il y a 2 ans. Et il y avait une chorale mixte, par contre, là, qui était assez extraordinaire et qui était de Mestre, c'est-à-dire à côté de Venise, et qui était composée de quelques Italiens, mais beaucoup d'immigrés, en fait. Africains, des pays de l'Est. Et ils avaient un répertoire qui reprenait toutes les chansons traditionnelles de pays d'origine de ces gens-là. Le soliste était évidemment celui qui est... Enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais c'était en tous les cas comme ça qu'il chantait son chant d'origine. Et le chœur reprenait et c'était assez extraordinaire. C'était... Alors, vous souhaiteriez qu'on fasse des contacts?
Oui, ce serait bien. Oui, on attend que
ça. Il n'y a absolument rien d'impossible. Et je peux vous dire que, puisque... On peut le préciser, vous étiez à l'ouverture de notre festival. Et je peux vous dire que les Italiens présents ce jour-là, et il y en avait beaucoup apprécié ce que vous faites.
Moi, une de mes grandes peurs, comme moi, je n'ai pas fait italien au lycée. Hein, ma grande peur, c'est de mal prononcer, de pas rendre la langue. Parce qu'une chanson, c'est d'abord une musique qui met en valeur un texte, pour moi. Et donc, c'est une de mes grandes peurs, ça. Je me renseigne, je prends tous les renseignements, mais au bout du compte, moi, l'italien, je ne le parle pas. Je me dépatouille si je vais en Italie, mais je me dépatouille.
Il y a des cours, hein, italien.
Oui, mais...
à Nice.
Voilà.
Mais franchement, c'est... Non, c'est bien. Alors, on va peut-être écouter un deuxième choix, ou un troisième, plutôt.
Oui, on en est à la troisième.
La troisième.
Donc, c'est Maremma. Maremma, c'est une chanson qui parle des marécages qui ont emporté l'être aimé. Mmh. Voilà, et tu es maudite, Maremma.
Tutti mi dicono Maremma, Maremma. perde la penna. Io c'ho perduto una persona cara. Sia maledetta Maremma, Maremma. Sia maledetta Maremma e chi la ama. Sempre mi trema il cor quando ci va. Torni mai.
Petite précision, dans vos souhaits hors frontières, vous souhaiteriez participer, je ne sais pas, à un festival de chorale ou en amenant la note italienne venue de France ou à l'intérieur d'une production unique où vous seriez invité à unique, ça serait peut-être plus difficile. Mais c'est surtout dans le but d'échanger, de oui. voyager. De...
Les deux.
Il peut y avoir les deux, oui.
Est-ce qu'avec les... c'est une question toute bête, peut-être, mais avec les... Il y a pas mal de comités de jumelage dans la région, mm-hmm. avec l'Italie. Mm-hmm. Ben, la Verpillière, c'est le Piémont. Villefontaine, c'est la Vénétie. Oui, Saint-Quentin, c'est plus loin. Hein, c'est la région de Rome. Dolomieux, c'est Dolomite. Et puis Saint-Marcel, qui vient de... Un jumelage qui est récent, c'est aussi les Dolomites. Il y en a d'autres, Aérieux, je ne sais pas si vous avez des relations avec les comités de jumelage.
Bah oui, avec le comité de jumelage de Villefontaine, oui, on a même chanté lors de...
Au mois de décembre, ouais. lors de l'accueil d'une délégation en provenance de Salzano.
Oui, voilà, c'est leur ville jumelée, oui. Ben voilà, donc le retour... on va y penser.
Le rendez-vous est pris.
On va y penser,
nous aussi. Et puis on est une jeune chorale, les projets commencent juste à se
construire. Oui. Non, mais c'est...
On a plein d'envie.
Ce qui serait mais assez intéressant, ça serait peut-être de trouver une chorale française en Italie, enfin, qui chante en français. Voir quel répertoire ils auraient pu prendre. On devrait pouvoir trouver quelque chose.
Comunità Montana
dans la vallée d'Aosta, oui, peut-être. Ouais. Voilà. Alors, puisqu'on parlait d'éventuelles escapades en Italie, vous avez des projets en ce moment? Vous avez. Dans l'immédiateté, vous avez des concerts prévus? Vous avez des.
Alors là,
c'est Catherine.
Oui, c'est Catherine. Notre grand projet de l'année, là, c'est la participation aux rencontres chorales Nord-Isère qui sont organisées à Villefontaine. Donc ces rencontres vont être organisées sous la forme d'un festival, donc du lundi 8 juin au dimanche 14 juin. Et donc Cantiamo doit chanter le jeudi 11 à la place de l'Échiquier, dans le quartier de Servenoble à Villefontaine. Avec deux autres chorales, Femmes de Cœur, que dirige également Françoise Brouet, et Les Polissongs, qui est une chorale d'hommes uniquement, qui est dirigée par Raymond Kayser.
Et là, donc, ce festival, vous l'appelez Festival des chorales. Toutes les chorales sont du Nord-Isère, là. C'est sur invitation avec des.
Oui, c'est co-organisé, enfin, le mairie de Villefontaine et aussi l'association Chorales en Chœur, qui est un regroupement de chorales du Nord-Isère qui sont fédérées dans cette association. Et donc, pour les rencontres, il y aura 18 chorales participantes et un chœur éphémère qui a été constitué pour l'occasion.
Également. Qui regroupe.
Plusieurs choristes de chorales différentes du Nord-Isère, voilà.
Et qui ont travaillé chacun de leur temps, ils ont réussi à se voir en répétition.
Oui, c'est un gros projet. On y travaille depuis presque 2 ans.
On a la chance de travailler avec un chef prestigieux dans la région qui s'appelle Emmanuel Robin. Voilà.
D'accord.
Voilà, qui fait travailler le chœur éphémère.
Donc vous avez beaucoup... Justement, c'est une des questions, mais vous avez donné la réponse. Vous avez des relations quand même assez régulières avec d'autres chorales, finalement.
Oui.
Parce que, d'accord. Bien, bien. Et dans les projets, donc vous-même, là, vous participez à un festival. Sinon, qu'est-ce que vos souhaits en sont plutôt dans des lieux précis? C'est-à-dire, est-ce que c'est des lieux en plein air? Est-ce que c'est des lieux en salle? Est-ce
en
que
plein
c'est...
air, on n'aime pas.
Vous n'aimez pas, hein. Je crois que c'est la caractéristique générale. Hein.
Non, parce qu'on s'entend
puis
pas.
Puis en plein air, on prend des
oui,
cours.
Oui, oui,
hein, Serge,
on s'entend pas en plein air. On s'entend pas en plein air. Là, on va chanter
en
plein air.
On va faire un effort. Là,
on va faire un effort. On va essayer de trouver des manières de se disposer pour qu'on s'entende bien. Parce que...
Ouais, c'est ça. Et, sinon,
et même avec un micro en plein air, c'est...
Alors, un micro, il faut, je ne sais pas, le technicien, il pourrait peut-être dire, mais les micros, c'est... Le micro, il va prendre la personne qui est en face du micro, quoi.
D'accord.
Essentiellement, ou alors il faut des micros super perfectionnés. Ouais. Moi, j'y connais rien. Ça
est-ce que on va lui demander. Est-ce que Laurent, est-ce que Laurent a déjà sonorisé des chorales? Non, jamais.
Non, c'est
en studio, je sens que ça va venir.
Et en studio d'enregistrement, est-ce que tu as eu l'occasion de...
Non, moi, je n'ai pas sonorisé plus que des pupitres de 4-5 personnes. Voilà. C'est des méthodes assez similaires. Mais c'est vrai que ça demande une technologie très particulière, surtout en plein air s'il y a du vent. Ça devient très compliqué.
Ouais, ouais, voilà.
Et vos lieux préférés seraient quoi, où l'acoustique, disons, correspond?
Eh ben, une salle où le son est pas trop absorbé, pas trop
écrasé,
pas trop
réverbéré.
Voilà, comme
voilà,
vous dites.
On s'est compris.
Voilà, ça dépend. Hein. Alors, bon, voilà. On a chanté aussi dans les églises, mais les églises, des fois, c'est beaucoup trop sonore. Le son, il part. Le temps qu'il arrive, on a déjà fini le couplet. Des canons, pas chanter un canon dans une église, c'est très, très périlleux.
Et là, la salle où vous répétez, c'est une salle des fêtes?
C'est une salle mise à notre disposition par la mairie de Villefontaine, qui se trouve dans une ancienne école. Et elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas trop mal. C'était la cantine de l'école avant.
Ah oui, c'était un peu insonorisé, peut-être.
Non, c'est pas vraiment insonorisé, mais bon, ça va.
Elle a été toute refaite.
Elle a été toute refaite, oui.
Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une vingtaine, hein, c'est ça?
Oui.
Et vous avez pas de, vous souhaitez pas particulièrement de recrutement, je crois. Hein,
parce qu'on trouve que quand on est peu nombreux, c'est plus confortable. On est plus tranquille. Moi, j'ai moins besoin de gérer le groupe de manière... musclé, on va dire. Je dirige par ailleurs un chœur d'une cinquantaine de choristes, alors ça va, j'ai ce qu'il me faut.
C'est la récréation. Hein.
c'est un peu du repos, oui, parce que c'est vraiment plus cool.
Oui, j'imagine.
On a compris comment la chorale avait été créée, mais dans le recrutement même, ça a été sur... comment vous êtes fait? Vous avez fait connaître la création de la chorale ou c'était spontané? Chacune connaissait un petit groupe qui...
Ben, il y a eu les deux. Il y a eu Evelyne et ses copines. Et puis moi, j'ai envoyé à tout mon carnet d'adresses mail. Et puis il y a deux, trois filles qui sont venues, comme toi.
Oui.
Voilà.
Oui. Par cooptation. Je
voilà,
ne parlais absolument pas italien. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Mais je vais m'y mettre.
À l'italien?
À l'italien, oui. Ah oui, c'est
très bien. On va peut-être être obligé de créer un cours spécial chant.
Oui.
Bah, ce serait bien, parce qu'on est nombreuses quand même à ne pas parler italien. Et Françoise nous demande de tout apprendre par cœur. Donc,
dans les cours,
ah oui, on le fait phonétiquement.
À partir de... un peu cette fin d'année, mais surtout à partir de la saison prochaine, on va avoir un local complètement dédié pour les cours. Et ça va faciliter pas mal de choses.
Ah bah oui.
Ouais. Voilà, on va vous nous proposer encore un titre.
Alors, donc, le dernier, c'est... ça s'appelle « L'amour est comme elle est l'era »,« L'amour est comme le lierre ». Et le refrain, il dit « Viens, mon beau brun, mais fais bien attention que maman ne nous entende pas, ne nous voit pas, moyennant quoi, tout ira bien. »
L'éternelle histoire.
Quando nasceste voi, nacque un giardino di tutte qualità, c'erano i fiori, l'odore si sentiva di lontano, e specialmente quel del gelsomino. L'amore come l'ellera, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Bien, 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 ricciolino d'amor. Vada ben che la mamma non veda, vada ben che la mamma non senta. Bien, 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 ricciolino d'amor. Vada ben che la mamma non veda, o bell'angelo del mio cuore.
Voilà, donc on va continuer avec vous. Et je crois que Evelyne, tu voulais nous...
En fait, on a deux témoignages voilà. de Kantiamet. Donc, donc je vais peut-être les lire.
Bien sûr.
Donc Dominique nous dit qu'elle ne parlait pas un mot d'italien. Donc j'ai souhaité participer à ce groupe, nous dit-elle, pour chanter avec mes copines, mais sans parler un mot d'italien. Maintenant, je ne peux plus dire ça. J'ai appris quelques mots, ceux qui reviennent souvent dans les chants. Ce qui est très intéressant, c'est la traduction, l'explication du sens des chants par celle qui parle italien, soit prof d'italien, soit italienne, ou celle qui parle pour le plaisir de parler italien. On découvre aussi la prononciation et les différences d'une région à l'autre, nous dit-elle. Il y a un autre témoignage, donc
Liliane, qui nous dit je veux dire combien Contiamo m'a fait du bien. Fille d'immigrés italiens, je suis très émue par toutes ces chansons que ma mère connaissait souvent. Au début, j'avais du mal à chanter car ma gorge se serrait. Et en rentrant du cours, j'appelais ma fille pour lui chanter un nouveau morceau. Une histoire de chant, de musique, mais aussi de pays, de génération et de racines.
Ce que disent vos deux témoignages, là, c'est ce qu'on. C'est très significatif, notamment la personne donc, qui parle de chant de ses parents, je suppose, puisqu'elle dit fils. Quand on a fait des interviews pour. On a essayé un travail sur l'immigration et on a. Pas mal d'enregistrements, et on abordait par moments justement le chant. Et c'était des moments, la plupart du temps, c'était des moments émouvants, parce qu'on sentait que les personnes là, qui étaient ceux qui avaient émigré eux-mêmes, mais petits, qui se souvenaient, et c'était des moments effectivement poignants.
Émouvants, parce que.
Émouvants,
il y a deux fois, j'ai dû attendre un petit peu, quoi, que les larmes passent.
Ça ne m'étonne pas.
Mais le chant touche les émotions, touche quelque chose de profond.
Juste des interviews.
Et puis la langue aussi, comme elle précise. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous souhaiteriez évoquer sur cette courte émission? Mais il faudra qu'on vous fasse revenir.
En chantant.
Faire le chant.
Oui, là, on n'était pas assez nombreuses pour pouvoir chanter correctement, mais... Pourquoi pas,
mais d'ailleurs, est-ce que c'est facile, un groupe de 20, mettons que, je ne sais pas, pour des questions de... il peut y arriver, des défections à un moment donné, ou une maladie de l'une ou de l'autre, ou un lieu peut-être plus exigu qui demande à ce que vous veniez, mais c'est peut-être difficilement adaptable à 20. Est-ce que c'est facile de réduire une chorale
c'est pas
à la demande?
C'est pas facile, parce que ça demande de la diplomatie, mais c'est faisable.
D'accord.
C'est faisable. C'est parce que
une sélection. Alors.
Et oui, forcément.
Si... Oui, puis il faut qu'il y ait un équilibre des voix.
Des voix. Dans un pupitre, il peut y avoir deux, trois choristes qui sont pas à l'aise de chanter toute seule ou seulement à deux ou trois. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable.
D'accord. Alors sinon, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, évoquer dans votre vécu sur 3 ans là, enfin tout au moins pour cette chorale là?
C'est un groupe fort agréable et qu'on se fait plaisir.
C'est l'essentiel. Hein.
C'est agréable. Moi qui suis française, mais voisine, cousine d'Italie, ça m'a vraiment réactivé mon amour pour l'Italie. Et maintenant, j'ai des vacances, c'est très souvent direction Italie parce que c'est quand même magique ce pays.
Bien, bien. Evelyne ?
Eh bien, moi, je suis contente d'avoir participé à cette émission sur Couleur FM.
97.
On va le faire en chœur.
Oui. Voilà, parce que ça nous a aussi donné l'occasion de nous exprimer, de nous faire connaître, et puis peut-être d'élargir un petit peu nos horizons par rapport à des invitations qui pourraient venir, des échanges futurs. Merci
Alain. Donnez-nous vos dates de concert quand vous en avez. On les mettra sur notre site, de toute façon. À Catherine aussi. Première émission de radio.
Ah ouais, c'est une première. Je crois pour toutes.
Non. Moi, j'avais participé quand on avait fait le concert Sacré-Cœur. Comment ça s'appelle, oui. Radio Colombe, c'est ça?
Ah oui.
Ouais, ouais, j'étais allée là. D'ailleurs, la dame m'avait dit qu'elle m'enverrait l'enregistrement et elle l'a pas fait.
Bah là, vous partirez avec l'enregistrement. on va mettre au défi notre technicien préféré. Voilà. Ben, on vous remercie en tous les cas d'être venu. On a quelques petites annonces culturelles dans la région. On a beaucoup parlé ici de Eri De Luca, là, qui est en procès en Italie, l'écrivain Eri De Luca.
Terroriste.
Oui, enfin, qui est présenté comme ça pour une parole qui aurait... Et tout tourne autour du fameux verbe saboter. En fait, il ne voulait pas saboter du tout le TGV, enfin le TAV, train haute vitesse, grande vitesse, donc italienne. Mais il le prenait au niveau dialectique. Enfin bref, il est en procès, soutenu par des intellectuels des deux côtés, et pas que les intellectuels des deux côtés de la frontière. Donc il sera présent, Eri De Luca, le samedi 30 mai, pour une conversation, rencontre et lecture de 14h à 19h. À la librairie Luciole à Vienne, voilà.
Excellente librairie.
Un libraire.
Eri De Luca qui sait tout faire. Hein. Il est alpiniste, il écrit divinement bien, il chante. Je ne sais pas si vous aviez vu à Villefontaine, justement, un spectacle à trois avec Gian Maria Testa. Il est le 30 mai. On parlait de chansons, et notamment de chansons dialectales. Alors, je vous signale que, donc, à la Dante Alighieri de Lyon, le 10 avril à 18h, à la Salle Laurenti, c'est là où Dante Alighieri organise ses rencontres, il y aura une conférence sur la chanson dialectale par Jean Guichard. Et il parlera notamment de la chanson dialectale des Pouilles de la Calabre et de la Sicile. Si vous voulez des renseignements, parce que pour les entrées et la place encore libre, parce qu'il faut être adhérent aussi de la Dante, il faut aller sur le site de la Dante Alighieri. Il suffit de taper Dante Alighieri de Lyon. Et puis le cinéma hors-piste de Bourgoin organise en ce moment sa quinzaine du cinéma italien. On en est à la deuxième semaine. Donc là encore, si vous souhaitez avoir des renseignements précis sur la programmation, vous pouvez téléphoner au 04 74 97 53 41. 04 74 97 53 41. Cette deuxième semaine, les films sont en version originale sous-titrée. Il y aura notamment Je voyage seul de Maria Sole Toniazzi, J'arrête quand je veux de Sidney Sibilia et Sacco e Vanzetti de Giuliano Montaldo, ce qui sera d'ailleurs la soirée de clôture du mardi 14 avril à 19h30, avec une petite collation italienne lors de cette dernière projection. Et le cinéma hors-piste, évidemment, qui projette maintenant ses films au Méga Royal. Puisqu'on parlait de collation, tu voulais nous évoquer?
Bah peut-être que le mois prochain, pas moi.
Non, mais on peut donner quand même, pour mettre un petit peu, non pas l'eau à la bouche. Alors, mais,
le vin à la bouche, voilà. Oui, mais pas à prendre sous forme de vin chaud. Parce qu'il est trop bon.
Donc, c'est un vin qui n'est pas du tout connu.
On y reviendra un petit peu, peut-être un peu plus en détail quand même.
Alors
je vais juste, parler du Gutturno, qui est un vin peu connu et qui est de la région de Piacenza. Et c'est un mélange de Barbera et de Croatina. Mais on y dira plus peut-être le mois prochain.
Mais on pourra aussi trouver sur notre site des informations. Mais tu t'engages à nous en parler la
Exactement.
Prochaine. Très bien. Bien. Merci Serge. Merci mesdames.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Merci.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.